Le journal avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quand l'UE presse le pas sur les vaccins, l'Agence européenne des médicaments se penchera dès le 21 décembre sur le sort de celui de l'alliance Pfizer-BioNTech, ouvrant ainsi la voie à un possible début des campagnes de vaccination partout en Europe avant la fin de l'année.
En attendant, Thomas, plusieurs de nos voisins ont mis en place aujourd'hui de nouvelles mesures de restriction.
Et nous irons notamment en Allemagne où un reconfinement de plus de 3 semaines a été instauré. À l'issue de 3 mois d'audience, c'est aujourd'hui que la justice française rendra cet après-midi son verdict contre les 14 soutiens présumés des auteurs des attentats de janvier 2015. Nous serons en direct du tribunal de Paris.
Quand la cité phocéenne replonge dans un feuilleton à rallonge, un conseil municipal est en préparation pour remplacer Michel Rubirola à la tête de la deuxième ville de France, avec notamment le socialiste Benoît Payan en pole position.
Et invité de la rédaction dans une quinzaine de minutes, Vincent Gesser, chercheur au CNRS et enseignant à Sciences Po. Enfin, second rôle populaire au cinéma et au théâtre comme à la télévision. Caroline Sellier, aussi à l'aise dans le drame que la comédie, est décédée hier des suites d'une longue maladie. Elle était âgée de 75 ans. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
L'art peut-il s'accommoder du virtuel? Vous le savez, les musées restent aussi fermés depuis les dernières annonces du Premier ministre Jean Castex. Ce sera au moins jusqu'au 7 janvier, voire plus. Quelles sont les conséquences et les effets de cette crise sanitaire pour le monde de l'art, pour notre rapport aussi aux œuvres? Nous en parlerons avec nos deux invités, Sébastien Allard, qui est conservateur général du Louvre, et la philosophe Daniel Cohn. Ils seront avec nous à partir de 12h55.
Dans ce long marathon que représente la lutte au coronavirus, chaque jour gagné à son importance, et c'est probablement ce qui a conduit hier l'Agence européenne des médicaments à anticiper donc sa décision sur l'autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech de 8 jours. Plus exactement, l'AEM se réunira le 21 décembre et non le 29 comme prévu initialement. Et l'issue ne semble d'ores et déjà faire que peu de place au doute. D'ici une semaine, le premier vaccin sera autorisé et les vaccinations pourront commencer immédiatement, a lancé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Pour parvenir à stopper la pandémie, nous devrons vacciner 70% de la population. C'est une tâche immense. Alors, commençons dès que possible, ensemble, tous les 27, le même jour. Éradiquons cet horrible virus ensemble, unis.
Voilà, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Alors, quand bien même l'approbation anticipée du vaccin ne changera sans doute rien à la situation sur le court terme, en revanche, c'est vrai que débuter une campagne avant la fin de l'année pourrait envoyer un véritable message d'espoir sur le vieux continent. Une manière aussi de dissiper peut-être la frustration que provoquent parfois les contradictions de la politique. Rappelons que ce vaccin développé conjointement par Pfizer et BioNTech a d'ores et déjà été approuvé dans un certain nombre de pays occidentaux, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Enfin, une question reste évidemment en suspens. La promptitude à se faire vacciner sera-t-elle au rendez-vous? À ce titre, la stratégie vaccinale en France, où le rythme des contaminations rechigne à baisser, sera justement en débat aujourd'hui au Parlement. Le Premier ministre Jean Castex présentera cet après-midi le plan de l'exécutif devant les députés. Le même exercice se reproduira demain, cette fois-ci devant les sénateurs. L'objectif affiché du gouvernement est évidemment de jouer la carte de la transparence, étant entendu qu'à quelques semaines du démarrage prévu donc d'une campagne de vaccination, celle-ci inspire bien sûr de l'impatience, mais aussi de la défiance, et même beaucoup de défiance, puisque selon un sondage de l'Agence sanitaire Santé publique France, seul à peine plus de la moitié des Français interrogés au mois de novembre, 53%, souhaitent se faire vacciner. C'est 11 points de moins qu'au mois de juillet. Et c'est surtout un chiffre parmi les plus faibles au monde. Quoi qu'il en soit, et dans l'espoir toujours et encore de juguler un niveau de contamination préoccupant, en particulier à l'approche des fêtes de Noël, une nouvelle batterie de restrictions s'est abattue ce matin sur plusieurs pays européens. C'est le cas notamment en Allemagne. Le pays est entré pour plus de 3 semaines dans une période de confinement renforcé avec la fermeture de tous ses commerces jugés non essentiels, de même que les écoles en anticipation des vacances. Les restrictions de déplacement vont être également durcies. Preuve que l'Allemagne, qui avait mieux géré l'épidémie que ses voisins au printemps dernier, peine désormais à contenir cette deuxième vague depuis le début de l'automne. Hier, le pays a d'ailleurs enregistré son plus lourd bilan quotidien avec 952 décès. Quoi qu'il en soit, c'est donc la vie tout entière du pays qui va devoir ralentir pendant au moins les 3 prochaines semaines. C'est un reportage à Berlin, signé Ludovic Piétenu.
Je fais deux tournées au lieu d'une, dit Mario en claquant la porte de son camion de livraison. S'il y en a un qui ne s'arrête pas en ce premier jour de confinement et en cette période de Noël, c'est bien lui. Il va vite, sans masque, partant du principe que les autres le portent. Bien sûr, il pense à l'épidémie tous les jours, mais il dit que son système immunitaire est plus résistant. Le nombre de morts record, des hôpitaux de plus en plus proches de la saturation. C'est dur en ce moment, j'ai pas mal d'amis qui sont malades, dit Ingrid, cette retraitée qui patiente devant la porte de la pharmacie. C'est fou comme ça se rapproche de plus en plus de nous. À la première vague, ça nous paraissait lointain, mais maintenant, les cas sont de plus en plus proches. C'est vraiment malheureux. Ce coronavirus, c'est le mal, lâche Silvio, sans abri. Avec ce confinement, dit-il, la vie est encore plus difficile. Il y a moins de clients dans ce supermarché, il y a aussi plus de fêtes, plus de bouteilles qu'on récupère pour la consigne, plus d'argent. Et moi, je ne suis pas confiné, je passe 13 ou 14 heures dehors.
Voilà un reportage à Berlin signé Ludovic Piétenu. Au Danemark, cette fois-ci, la fermeture des collèges et lycées, mais aussi des bars, restaurants, centres sportifs et lieux culturels jusque-là en vigueur dans les deux tiers des communes a été étendue aujourd'hui à l'ensemble du pays. Enfin, en Angleterre, plus exactement à Londres, pubs et restaurants ont été contraints de fermer leurs portes pour la troisième fois depuis le début de la pandémie. Idem pour tous les lieux culturels. Or, cette nouvelle fermeture représente notamment un véritable désastre, Maxence Peignet, pour les théâtres de la capitale.
En Grande-Bretagne comme ailleurs, la culture souffre des confinements. Et c'est peut-être dans les théâtres londoniens que cela est le plus frappant. Avec 39 salles renommées dans le seul quartier du West End, la ville est souvent perçue comme la capitale mondiale des comédies musicales. On y vend encore plus de billets qu'à New York, 15 millions en 2019. Mais malheureusement, les scènes sont restées vides quasiment toute l'année. Certains établissements avaient rouvert leurs portes à un public distancié à la fin du dernier confinement, le 2 décembre, mais ils devront à nouveau baisser le rideau ce mercredi, puisque Londres passe en niveau d'alerte maximal, ce qui implique de nouvelles restrictions. Le risque pour beaucoup de théâtres, c'est tout simplement de disparaître. Cet été, 70% d'entre eux craignaient déjà de faire faillite d'ici la fin de l'année. Les ventes de billets ont chuté de 93% avec la pandémie et ils ne peuvent plus compter sur la période des fêtes pour se renflouer. De son côté, le gouvernement a promis une aide de 1,75 milliard d'euros pour l'ensemble de la culture. Mais la plupart des théâtres redoutent que cette somme bénéficie en priorité aux institutions les plus connues. L'autre crainte, c'est que le secteur perde ses talents. 300 000 personnes travaillent en temps normal pour les théâtres britanniques, mais 70% ne sont pas salariés et n'ont donc pas toujours bénéficié des mesures de chômage partiel. Tant et si bien qu'un tiers pense à quitter ce milieu pour chercher du travail ailleurs.
Si la pandémie de Covid-19 aura consacré la toute-puissance des géants de la tech aux milliards d'utilisateurs quotidiens en accélérant la transition numérique, elle aura aussi sonné le réveil des États face à leur emprise. En l'occurrence, et face aux abus des géants de la tech, la Commission européenne a dévoilé hier ses armes, comprenant une vaste panoplie législative pour protéger les internautes des mauvaises pratiques des GAFAM, mais au-delà de toutes les entreprises du numérique qui imprègnent aujourd'hui notre quotidien. Retour en France. À présent, le SMIC ne bénéficiera pas du moindre coup de pouce en 2021, au-delà bien sûr de la revalorisation automatique légale de 1%. C'est ce qu'a confirmé hier le ministre du Travail aux organisations syndicales. Une décision entérinée ce matin en Conseil des ministres. Eux sont au-dessus du SMIC, mais souffrent également d'un manque de reconnaissance de leur travail. Et pas seulement salarial, eux, ce sont les représentants de toutes les professions dites intermédiaires, comprenez en première ligne, mais non reconnus malgré des emplois qualifiés. Or, leur malaise apparaît aujourd'hui encore plus important que les années précédentes. C'est du moins Catherine Pétillon, ce qui ressort de la 6e édition du baromètre UJCT-CGT publié ce matin.
Un manque de reconnaissance sociale, une rémunération en décalage avec leur implication, leur qualification et leur charge de travail et une absence d'évolution professionnelle, voilà le sentiment partagé par ces travailleurs. Ni ouvriers, ni cadres, ils exercent dans une grande variété de secteurs. Ils sont infirmiers, éducateurs, préparateurs de pharmacie, officiers de police, instituteurs ou encore agents de maîtrise. Un manque structurel de reconnaissance s'ajoute cette année avec le Covid, une charge particulière de travail pour ces professionnels. Or, seuls 37% des personnes interrogées s'estiment reconnues dans leur travail. C'est très peu et c'est même 10 points de moins du côté des professionnels de santé où le mécontentement est très fort, en particulier dans la fonction publique hospitalière. Plus de la moitié des fonctionnaires interrogés estiment en outre ne pas pouvoir faire un travail de qualité, témoignant d'un hiatus entre les missions de service public et la capacité à les remplir, faute de personnel notamment. 75% témoignent aussi de conflits avec l'éthique professionnelle, une situation source de mal-être au travail et d'épuisement. Autre point d'alerte pour le syndicat, la moitié des personnes interrogées déclarent effectuer des heures supplémentaires et pour près de 37% d'entre elles, ces heures ne sont ni payées ni récupérées. Quant à la prime Covid versée à certains travailleurs, elle est jugée insuffisante par 80% des salariés de la fonction publique hospitalière. Le gouvernement s'est jusqu'ici refusé à prendre des mesures structurelles de soutien, mais a conscience de la nécessité de faire un geste envers ces professions. C'est l'objet d'une mission sur ce qu'Emmanuel Macron a nommé les travailleurs de la deuxième ligne. Première étape, savoir qui est considéré comme tel. Il en sera question vendredi lors d'une réunion entre les partenaires sociaux et le ministère du Travail.
Les 5 semaines du procès de l'attentat du Thalys touchent à leur fin. Hier, le ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité pour son auteur, le djihadiste marocain Ayoub El Kazani, accusé de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, une tentative de tuerie de masse déjouée uniquement grâce à l'intervention de plusieurs passagers. Le verdict est attendu demain. Un verdict pour l'histoire cet après-midi. Après 3 mois d'audience aussi intense que chaotique, la cour d'assises spéciale de Paris rendra elle aujourd'hui sont délibérés au procès des 14 soutiens présumés des auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. Rappelons que les plus lourdes peines, la réclusion criminelle à perpétuité, ont été requises contre Mohamed Belhoussine, jugé par défaut après son départ pour la Syrie, et Ali Riza Polat, présenté comme la pièce maîtresse des actes préparatoires. Florence Turm, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal de Paris. Alors on sait que les débats n'auront pas permis de lever toutes les zones d'ombre, en particulier sur le circuit des armes, aux commanditaires. Or, c'est justement dans ces zones encore floues que la défense est engouffrée. Et ce sera probablement l'un des enjeux de ce verdict, de même, Florence, que la qualification d'association de malfaiteurs terroristes criminels.
Oui, un procès, c'est avant tout, bien sûr, un enjeu judiciaire, double enjeu sur la culpabilité des accusés et les peines prononcées en regard. Culpabilité d'abord, car la plupart des avocats de la défense ont plaidé l'acquittement pour leurs clients face aux lourdes peines requise par les avocats généraux du parquet national antiterroriste. Avec effectivement au cœur des débats cette infraction d'association de malfaiteurs terroristes retenue par l'accusation à l'encontre de 8 des accusés présents. C'est désormais un crime passible de 20 ans de réclusion criminelle au moment des faits, mais nombre d'avocats y voient une infraction fourre-tout. Si l'on voulait schématiser, elle ne nécessite pas d'avoir une connaissance précise du projet terroriste pour être constituée. Et les magistrats eux-mêmes ont livré des interprétations différentes par le passé, notamment au procès Mérat, en première instance et en appel. Enjeu judiciaire donc et en défense, les avocats ont exhorté les 5 magistrats professionnels de cette cour d'assises spéciale à ne juger que les hommes et les faits au regard d'un dossier, selon eux, vide de preuves. À faire acte de courage pour s'extraire de toute pression extérieure, qu'elle soit politique, sociétale, symbolique, dans ce procès filmé pour l'histoire. Les parties civiles, elles sont 200 au total, viendront sans doute nombreuses tout à l'heure pour entendre ce verdict, des victimes venues pour comprendre. Toutes les réponses ne leur ont pas été fournies durant les débats et il n'est pas sûr qu'elles le soient ce soir. À la barre, en livrant des témoignages poignants, certaines ont aussi dit qu'elles n'étaient pas animées par un quelconque esprit de vengeance.
Merci Florence Sturm, en direct du tribunal de Paris. Alors si beaucoup espéraient clore un chapitre de l'histoire avec ce procès, force est de constater que l'actualité en aura décidé autrement, puisque pas moins de 3 attentats, mais aussi une législation sécuritaire controversée et des protestations dans la rue auront accompagné ces 3 mois de procès. S'agissant des critiques, d'ailleurs maintes fois répétées, quant à la gestion du maintien de l'ordre dans la capitale par le préfet Didier Lallement, plusieurs élus de gauche, communistes, écologistes et insoumis ont appelé à sa démission hier lors d'un conseil municipal chahuté. De son côté, la maire socialiste Anne Hidalgo a préféré mettre en cause la responsabilité de son ministre de tutelle Gérald Darmanin. Quand le conseil de l'ordre des avocats a signé l'État pour faute lourde après l'enquête préliminaire décriée du parquet national financier pour trouver la taupe dans l'affaire dite des écoutes de Nicolas Sarkozy. La première audience avait lieu ce matin au tribunal judiciaire de Paris. La décision du PNF d'éplucher les factures téléphoniques de Ténor du Barreau pour tenter d'identifier qui aurait pu informer l'ancien président et son avocat qu'ils étaient sur écoute avait été révélée l'été dernier, suscitant aussitôt la polémique enrichie depuis par des soupçons de possible conflit d'intérêts après avec Éric Dupond-Moretti, visé en tant qu'avocat par cette enquête, a lancé en tant que garde des Sceaux, cette fois-ci une enquête administrative confiée à l'inspection générale de la justice. Direction Marseille, à présent, après l'annonce hier du départ de la première femme maire de la deuxième ville de France. Michèle Roubirola, entrée en fonction en juillet dernier, a décidé de jeter l'éponge pour raison de santé, confirmant ainsi des révélations parues dans la presse, la disant, je cite, épuisée par la politique marseillaise. Et pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, Vincent Gesser, chercheur au CNRS et enseignant à Sciences Po. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors la désormais ex-maire de Marseille a annoncé dès hier qu'elle souhaitait échanger sa place avec celle de son premier adjoint, Benoît Payan. Alors ce sera au conseil municipal en réalité d'en décider lundi prochain, mais d'ores et déjà, politiquement parlant du moins, on notera que l'un et l'autre ne sont pas forcément interchangeables.
Oui, parce que l'élection de Michèle Roubirola, au-delà de l'alternance politique, avait symbolisé une véritable rupture, un véritable changement de gouvernance locale. D'abord, c'était une femme. C'était la première fois dans toute l'histoire politique de Marseille qu'une femme devenait maire. Ensuite, c'était une personne plutôt issue de la société civile, donc le symbole d'une certaine renouveau démocratique. Et c'était aussi quelqu'un qui était très marqué par son parcours professionnel, puisque elle est médecin précisément, mais pas médecin lié au grand médecin hospitalier ou aux cliniques privées, mais un médecin du social proche des quartiers nord. Donc elle symbolisait à elle seule une aspiration populaire, ou l'aspiration du moins de certains électeurs, à une vraie rupture avec l'ancien système de gouvernance municipale à Marseille.
Alors, précisément, faut-il déduire de ce renoncement que la politique est un métier et non pas une fonction? Vous l'avez rappelé, Michèle Roubirola venait de ce qu'on appelle la société civile. Ça veut dire qu'il faut avoir quelque part les épaules. Est-ce que ce côté finalement animal politique qu'on a pu effectivement reprocher à toute une génération et qu'une partie des Français rejette est en réalité nécessaire?
Deux éléments de réponse. Alors, c'était pas totalement une nouvelle venue à la politique, hein. Elle avait quand même une expérience de militantisme. Elle est conseillère départementale, ce qui est quand même un mandat local très important. Elle avait déjà été candidate au municipal sur la liste de Pape Diouf. Donc, effectivement, c'était pas une nouvelle venue. En revanche, vous avez tout à fait raison. Il y a une sorte de contradiction aujourd'hui en France. D'un côté, des électeurs, des citoyens ordinaires qui aspirent à ce que les élites politiques locales et nationales soient plus proche d'eux, et de l'autre finalement des critiques qui se font parce qu'on reproche à ces gens un peu ordinaires d'être pas assez professionnels. Et là on est dans une sorte de contradiction, de paradoxe majeur de la vie politique française. On critique les élites pour la distance, pour le fossé, pour la fracture, et en même temps quand on a des gens ordinaires qui arrivent au pouvoir, on les critique pour manque de professionnalisme. Donc on se dit quelque part, oui, là il y a une responsabilité collective dans l'incapacité à penser une transformation radicale des profils politiques de ceux qui détiennent le pouvoir à l'échelon national et aux échelons locaux.
Alors, hier, la droite marseillaise n'aura finalement pas attendu bien longtemps pour crier au hold-up, dénoncer notamment un scénario écrit d'avance par Benoît Payan qui arriverait ainsi à ses fins. Est-ce que cette hypothèse vous paraît crédible ?
Écoutez, il faut éviter de tomber dans les hypothèses de type conspirationniste et complotiste, et plutôt réintroduire un peu de raison dans l'analyse. Il y a une très grande complicité entre Michèle Roubirola et Benoît Payan. Effectivement, ils ont mené cette victoire en tandem, et il est très fort possible que quelque part le tutorat de Benoît Payan sur Michèle Roubirola explique cette démission. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un accord secret. Je crois que là, on rentre dans la politique politicienne. C'est plus, je dirais, la proximité, le tutorat, l'influence de Benoît Payan que véritablement un accord qui aurait été passé entre les deux personnages. À aucun moment, je pense que cet accord n'a existé.
Une dernière question, monsieur Gesser. Marseille apparaissait comme une ville laboratoire de cette nouvelle union des gauches après donc la victoire du printemps marseillais. La démission de Michèle Roubirola est donc quelque part l'échec de cette union des gauches au niveau local. Est-ce qu'elle présage d'un éventuel échec au niveau national ?
Elle montre en tout cas la difficulté à sortir de ce que j'appellerais la vieille politique. On pourrait dire presque l'ancien régime politique, et aujourd'hui pour la gauche de conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux électeurs et surtout de nouvelles façons de fonctionner politiquement. Et effectivement, c'est tout un espoir d'expérience pilote marseillaise, mais qui au-delà était un espoir pour l'ensemble, on va dire, des forces plutôt de gauche en France, d'élaborer ou d'utiliser Marseille comme un tremplin pour les futures échéances nationales. Donc c'est tout un espoir national qui s'effondre à travers Marseille aujourd'hui.
Merci Vincent Gesser, chercheur au CNRS, enseignant à Sciences Po, d'avoir répondu à notre invitation. Si cette année 2020 fut pour l'Amérique une année de fracture et de division, en témoigne cette campagne d'une agressivité inouïe, sans oublier les ruades de Donald Trump. Elle aura aussi été celle de l'annonce d'un profond changement de style. Après avoir choisi Kamala Harris pour se présenter à ses côtés pour la vice-présidence, Joe Biden a choisi d'intégrer à son équipe un deuxième ex-rival de la primaire démocrate, Pete Buttigieg. Si le Sénat entérine sa nomination au ministère des Transports, il deviendra par ailleurs premier membre ouvertement homosexuel d'un cabinet présidentiel américain. Et puis, renforcé par la confirmation officielle de sa victoire contre Donald Trump, Joe Biden est reparti dès hier en campagne électorale, plus exactement dans l'état de Géorgie, pour y soutenir deux candidats démocrates avec l'espoir de ravir aux républicains le contrôle du Sénat, ce qui, le cas échéant, constituerait le dernier clou enfoncé dans le cercueil de la présidence de son prédécesseur. Le premier procès post-MeToo au Québec s'est conclu hier au palais de justice de Montréal par un acquittement. Le producteur et célèbre fondateur du festival Juste pour rire, Gilbert Rozon, était poursuivi pour viol et attentat à la pudeur. Or, dans un long jugement tout en nuances, la juge a estimé que le procès, qui a opposé deux versions contradictoires de faits remontant à 40 ans, n'avait pas permis de conclure à la culpabilité de l'ex-magnat de l'humour, hors de tout doute raisonnable. C'est une correspondance à Montréal, signée Hélène Jour.
Lors du procès, la défense de Gilbert Rozon avait constitué un véritable coup de théâtre. La victime, 20 ans à l'époque des faits, avait raconté à la cour comment le producteur, rencontré le soir même dans une discothèque, l'avait violée au petit matin dans son sommeil, dans un chalet où elle avait accepté de passer la nuit. 40 ans après, j'éprouve toujours la même colère, avait-elle confié. Mais Gilbert Rozon avait choisi d'opposer à son récit une version totalement inverse. C'est elle qui serait venue le rejoindre dans sa chambre pour abuser de lui. Parole contre parole, la stratégie s'est avérée payante. Même si le tribunal ne croit pas la version des faits donnée par M. Rozon, celle-ci soulève tout de même un doute raisonnable, a déclaré la juge en prononçant l'acquittement de l'ex-mentor de l'humour. La victime, Annick Charrette, qui s'exprimait pour la première fois à visage découvert, est sous le choc.
C'est incroyable comme sentiment d'impuissance. À toutes les victimes, j'aimerais vous dire ceci. N'ayez pas honte. La culpabilité que vous ressentez ne vous appartient pas. Malgré la déception d'aujourd'hui, je vous invite à dénoncer. Parce qu'ainsi, les choses pourraient changer.
Les choses pourraient changer, mais c'est un jour sombre pour toutes les victimes d'agressions sexuelles au Québec, a-t-elle conclu, amère.
La disparition d'un visage familier du grand public, l'actrice et comédienne Caroline Cellier est morte hier à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Elle avait notamment, Éric Chavreau, été récompensée en 1985 du César de la meilleure actrice de second rôle.
Caroline Cellier était une figure très discrète et populaire du théâtre et du cinéma français, appréciée pour son jeu, sa beauté et sa classe, souvent teintée d'un air détaché et d'un petit sourire moqueur qui faisait tout son charme. Fille d'un garagiste de Montpellier, celle qui est fascinée par le 7e art et les planches depuis son enfance, entre au cours Simon en 1963. Deux ans plus tard, elle joue son premier rôle au cinéma, dans La tête du client, avec Francis Blanche, Michel Serrault et Jean Poiret. Jean Poiret qui deviendra bien plus tard son mari et la portera à l'écran dans Le Zèbre, une comédie drôle et dramatique de 1992 qui lui vaudra une nomination comme meilleure actrice au César. Caroline Cellier a tourné dans une centaine de films, de pièces et de séries, à la télévision aussi, dirigée par les plus grands réalisateurs comme Lelouch dans La vie, l'amour, la mort, Chabrol dans Que la bête meure, Molinaro dans L'emmerdeur ou Henri Verneuil dans 1000 milliards de dollars. Elle connaît la consécration dans les années 80, en particulier avec son rôle de Quadra sulfureuse dans L'année des méduses de Christopher Frank, récompensée par le César de meilleure actrice de second rôle. Au théâtre, passant du classique au contemporain, elle est saluée en 1999 par une nomination aux Molière pour Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. Un road movie aux côtés de Jane Birkin et Catherine Jacob a marqué son dernier rôle au cinéma, Thelma, Louise et Chantal en 2010, trois femmes qui décident de tout quitter pour retrouver leur jeunesse et oublier leur drame.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. L'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la pointe bretonne qui s'étendra progressivement entre la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et le littoral des Hauts-de-France. Partout ailleurs, les éclaircies devraient s'imposer. Quant aux températures particulièrement douces pour la saison, elles afficheront entre 9 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia et à 18h, vous avez rendez-vous avec Claire Flochel pour le prochain journal de la rédaction.